Vous êtes sur Fréquence Mistral Digne, c'est tout de suite notre rendez-vous mensuel avec la médiathèque. Bonjour Muriel Meignier, directrice de la médiathèque. Bienvenue.
Bonjour Odile et bonjour à tous et à toutes. Et merci de nous inviter encore ce mois-ci. Donc, la médiathèque va vous proposer pour ce mois de décembre toute une série d'animations riches, variées pour tous les publics. Et on commence donc dès le samedi 2 décembre avec un spectacle pour les plus petits, un spectacle de Noël jeunesse par la compagnie Madame Glou. Alors, vous aurez deux séances. Une séance à 15h30 pour les enfants à partir de 3 ans et une séance à 16h30 pour les tout petits, donc de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, bien sûr. Donc, c'est un spectacle sur la nuit la plus longue de l'année, un spectacle d'ombre et de lumière, et qui est un spectacle pour une quarantaine de personnes. Donc, pensez à bien réserver votre spectacle. Et ensuite, nous avons la semaine d'après, donc du mardi 5 décembre au samedi 9 décembre, un partenariat avec Amnesty International qui nous propose une exposition de peinture, de sculpture, de gravure et de photos par les artistes de la région et en soutien à Luis Manuel Olera Alcantara, qui est donc un artiste cubain qui est condamné à 5 ans de prison pour avoir défendu la liberté d'expression. Donc vous aurez un vernissage pour cette exposition le mardi 5 décembre à 18h à la médiathèque. Et le samedi 9 décembre, ça sera la journée des 10 jours pour signer, donc pour signer la pétition que Amnesty International propose toutes les années à la médiathèque.
Ça, c'est le
samedi 9, toute la journée à la médiathèque. Et donc, l'exposition est donc visible du mardi 5 au samedi 9 décembre aux heures d'ouverture de la médiathèque. Le mardi 5, nous avons aussi un atelier d'écriture animé par Marie Patou de 17h30 à 19h. Donc là, pareil, c'est un atelier avec des personnes qui viennent déjà depuis le mois d'octobre, qui pratiquent cet atelier, mais rien n'empêche à de nouvelles personnes de venir et de pratiquer cet atelier, de le prendre en cours. Le mercredi 6, là c'est un partenariat avec Théâtre au 4 que nous avons depuis de très très nombreuses années. Et donc nous serons en préambule du festival Théâtre au 4 qui a lieu toutes les années au Centre culturel. Et le mercredi 6 décembre à 18h, il y aura une présentation d'une adaptation d'Anton Tchekhov, Les méfaits du tabac. C'est une adaptation, mise en jeu et interprétation de Dominique Zamparini, de la compagnie Rire et Sourire. Et toujours le mercredi 6, dans la salle du conte, là c'est pour les enfants de 3 ans à 10 ans, c'est un partenariat avec le Cidevom. C'est une animation autour de la sensibilisation au tri des déchets, voilà, réalisée par le Cidevom.
À quelle heure, pardon ?
Alors, ça sera à partir de 10h. Ça sera dans la salle du conte de la médiathèque, au premier étage. Donc, les enfants, bien sûr, peuvent être accompagnés des parents, là, pour les plus petits. C'est sur inscription, puisque c'est toujours dans la salle du conte un nombre un peu limité, puisque là, la salle peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes.
Et c'est réservé aux tout-petits ?
C'est réservé aux enfants de 3 à 11 ans.
D'accord.
En fait, c'est pour les sensibiliser dès le plus jeune âge à trier les déchets. Et toujours le samedi 6, là dans la salle du conte aussi, mais l'après-midi à 16h, nous aurons une séance de conte qui s'appelle les mini-glottes. Alors, c'est des lectures en langue étrangère traduites en français pour des enfants à partir de 4 ans, sur inscription, bien sûr. Eh bien, on enchaîne avec le samedi 9 décembre, avec un partenariat cette fois avec l'UDAF. Ça sera dans la salle du compte à partir de 10h. Ça, c'est pour les parents cette fois, et c'est sur inscription. C'est sur le thème des enfants et des écrans. Donc, c'est un atelier parents. Parlons numérique, c'est le rapport des écrans avec les enfants. Ça sera un temps d'échange entre parents sur des informations, des conseils, des petites astuces. Comment mieux vivre et mieux vivre, oui, effectivement, avec les écrans, avec toute la famille et surtout les plus jeunes. Ensuite, la semaine d'après, donc du mardi 12 décembre, à partir du mardi 12 décembre et jusqu'au samedi 30 décembre, nous accueillons une exposition. Là, c'est dans le cadre de la manifestation « Lire les montagnes », qui est une manifestation nationale. Et nous avons un partenariat avec le Géoparc, les rencontres cinématographiques. Donc, à la médiathèque, on aura cette exposition à partir du mardi 12 jusqu'au 30 décembre, une exposition qui s'appelle « Cime et abîme ». Ça sera des illustrations issues de l'album « Le berger et l'assassin » de Henri Meunier et Régis Lejon. Donc c'est de belles illustrations sur la montagne, donc qui nous plongent dans les sommets, qui nous fait rêver un petit peu. Et dans ce même cadre, donc, nous aurons le mercredi 13 décembre à 18h une conférence de Régis Aubert du Vertige pour les oreilles, musique et montagne. Donc il va nous faire voyager à travers la musique sur les sommets de nos montagnes françaises, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est les deux manifestations dans le cadre de Lire les montagnes. Il y aura d'autres manifestations, bien sûr, au Géoparc et dans le cadre des rencontres cinématographiques. Je pense que c'est le lundi 11, les rencontres cinématographiques avec deux projections. Ben nous, le mardi 13, nous avons quatre animations à la médiathèque. On commence à 11h. Pour les tout-petits, pour les bouts de choux, un conte pour les enfants de 1 à 3 ans qui s'appelle « Les petites oreilles ». Donc là, pareil, pensez à réserver votre animation. Toujours le même jour, à 14h, il y aura un atelier de livres pliés sur la déco de Noël, bien sûr, puisque c'est les préparatifs de Noël. Donc ça s'adresse à des adultes et puis même des enfants à partir de 11 ans. Et c'est sur inscription aussi. L'après-midi, on aura toujours avec le CIDEVOM un atelier donc de sensibilisation au tri pour les enfants là, de 3 à 11 ans, accompagnés bien sûr. Donc c'est la même animation que vous avez le mercredi 6 que nous faisons aussi le mercredi 13 décembre. Deux animations donc pour sensibiliser les plus jeunes au tri des déchets. Et bien sûr, le 13 aussi, le soir, nous avons la conférence de Régis Aubert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le cadre de « Lire les montagnes ». La même semaine, du vendredi 15 au samedi 16, dans le hall de la médiathèque et aux horaires d'ouverture donc de la médiathèque, le COBIAC, qui est le collectif des bibliothécaires et intervenants en action culturelle, va donc s'installer dans le hall de la médiathèque pour des ventes de livres. Et donc ce collectif œuvre en faveur du développement de la lecture et des bibliothèques en France, mais aussi dans les pays à l'étranger, quoi, à l'international. Et le samedi 16 aussi, à la médiathèque, donc à 11h30, vous aurez une prestation dans le cadre du festival Théâtre 4 qui s'intitule Oisy Philo. Donc là, je vous invite à venir découvrir, parce que je ne veux pas vous en dire plus, mais il y aura des oiseaux dans la médiathèque, de drôles d'oiseaux dans la médiathèque. Et ce samedi 16 décembre aussi, l'après-midi, de 16h à 17h30, notre partenariat avec l'association Maraca pour un goûter compté. Donc là, c'est dans la salle d'exposition qui est beaucoup plus grande et il n'y a pas de réservation pour ce goûter compté. Le mercredi 20, pour les enfants, cette fois de 3 à 5 ans, vous aurez des lectures et des contes. Donc là, c'est sur inscription puisque c'est dans la petite salle du conte. Ce même mercredi, nous accueillerons à 18h le conservatoire pour un interlude. Donc un interlude de Noël, une classe de chant lyrique du conservatoire. Et on finit l'année avec le jeudi 21 décembre, dans la salle d'exposition à 18h, une conférence sur le récit de voyage de Paul Arène en Tunisie. Donc les 20 jours en Tunisie en 1882. Et là, nous avons un partenariat avec l'espace pédagogique et patrimoine François Richaudot de Sisteron. Et la conférence sera animée par Jalel El-Jaherbi, qui est professeur des universités et chercheur affilié à l'université de Toulon. Voilà pour ces animations sur le mois de décembre. Vous pouvez toujours, de toute façon, retrouver tous les documents empruntés à la médiathèque, à nos horaires d'ouverture habituels. À savoir que la médiathèque est ouverte normalement pour les vacances scolaires. Donc, n'hésitez pas à venir passer un moment pour découvrir nos livres, nos DVD, nos CD, nos revues et toutes les animations, expositions que vous pouvez découvrir.
Super.
Merci à vous.
Voilà, donc tout est dit pour le mois de décembre.
Pour le mois de décembre,
alors,
oui.
Alors, puisqu'il nous reste du temps, j'ai envie de vous proposer de réécouter l'interview réalisée avec Paul Satis.
Oui.
Puisque c'était la conférence sur l'historique de la BD.
Oui, dans le cadre du mois de la BD, oui.
Voilà, donc ça peut être sympa de réécouter cette interview de Paul Satis. C'est tout de suite. Merci Muriel.
Merci Odile et puis à très bientôt.
À très bientôt. Conférence historique sur les origines de la bande dessinée par Paul Satis, invité dans le cadre du mois de la BD à la médiathèque François Mitterrand à Digne-les-Bains. Paul Satis a animé avec beaucoup de passion cette conférence sur l'origine de la bande dessinée. La BD d'hier à aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir que le public retrouvait les personnages de bande dessinée des jeunes années, Bécassine, Tintin, Spirou, Sécotine, Gaston Lagaffe, Astérix, les Pieds Nickelés, Lucky Luke, les Dalton, Bleck et Mortimer, mais aussi Raon, Pif Gadget et bien d'autres. Bien plus tard, l'arrivée des mangas, c'était la conférence à la médiathèque François Mitterrand. Paul Satis au micro d'Odile Frison.
Alors moi je suis journaliste à la télévision française, mais j'ai aussi une activité à côté dans le monde de la bande dessinée. En gros, je travaille un peu pour la presse bande dessinée, je suis souvent dans des festivals sur des conférences comme celle-là ou des rencontres avec des auteurs. Et j'ai aussi créé un podcast il y a un an et demi qui s'appelle « Dans l'atelier BD ». Et qui est un podcast dans lequel je vais dans les ateliers des auteurs ou des autrices de bande dessinée. Et pendant une heure et demie, on parle de l'acte de création de bande dessinée qui est toujours un peu mystérieux, un peu complexe, la carrière des auteurs, pourquoi ils ont été amenés à faire ce drôle de métier. Voilà, donc il y a 31 ou 32 podcasts qui sont disponibles avec des tas d'auteurs et d'autrices très différents dans leur style, dans leur façon d'approcher la BD. Et ce que je tiens à faire surtout, c'est d'aller dans le lieu même de la création, c'est-à-dire dans leur atelier.
Donc vous-même, vous êtes un passionné de BD.
Je crois qu'on peut le dire.
Donc aujourd'hui, c'est une conférence sur la bande dessinée d'hier à aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Il y a eu beaucoup d'évolution ?
Ah oui, c'est une conférence historique. On va essayer de savoir d'où ça vient, pourquoi on s'est mis à raconter des histoires avec des images collées les unes aux autres, avec des textes qui sont dans des petites bulles. Et puis jusqu'à effectivement la bande dessinée d'aujourd'hui qui a énormément muté en fait dans la bande dessinée, elle a été créée au milieu du 19e siècle et aujourd'hui est-ce qu'elle a encore un sens? Oui, parce que c'est un média qui se porte très bien. La bande dessinée aujourd'hui, c'est ce qui se vend le plus en littérature de manière générale, enfin dans le monde des livres, c'est ce qui se vend le plus après la littérature générale. Elle s'est totalement renouvelée dans les années 2000. Elle est ultra protéiforme. En fait, c'est même réducteur de dire la bande dessinée tellement il y a deux genres qui sont les uns à côté des autres. C'est vraiment un univers assez passionnant. On est presque, je trouve moi en ce moment, dans un âge d'or tellement il y a d'auteurs, d'autrices, de diversité. Le problème de tout ça, c'est que ça a aussi généré une crise financière, notamment pour les auteurs. Et puis on sent bien aussi qu'il y a une mutation avec la jeunesse qui en lit un peu moins.
La jeunesse en lit un peu moins. Mais par contre, la bande dessinée, est-ce que c'est plus les adultes qui sont friands ?
En fait, il y a deux types de bande dessinée. Il y a une bande dessinée assez classique. Beaucoup des adultes de nos âges ont grandi avec la bande dessinée, donc on garde une nostalgie, continue d'en lire et d'en acheter, en tout cas sur le franco-belge. J'ai appris que la jeunesse en lit plus, en fait. Les enfants continuent à en lire pas mal. Il y a des cartons gigantesques en BD aujourd'hui avec des albums comme Mortel Adèle ou Ariol. Donc les enfants continuent à en lire pas mal, parce que les parents, ils aiment bien que les enfants lisent, hein, évidemment. Et comme ils vont pas forcément vers la littérature, la bande dessinée, c'est peut-être plus facile d'abord pour aller vers la lecture. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est celui-là, est gigantesque, qui fait que les adolescents et les jeunes adultes lisent encore de la bande dessinée, c'est le manga, qui est de la bande dessinée. Et le manga, lui, a une place très importante. Alors, c'est une mutation. Après, on voit bien qu'on est depuis quelques années dans un monde où l'image, où les réseaux prennent de plus en plus de place. Donc, est-ce que ça va finir par prendre même la place du manga et de la lecture de la jeunesse? C'est une question qui se pose. Mais c'est vrai que le lectorat de BD classique ou franco-belge, il commence à être un peu plus âgé, oui.
Les premières BD datent de quand et c'était quel style de BD?
Les premières? Alors, la toute première, historiquement, elle date de 1832, je crois. La BD est née en Suisse, un certain Rodolphe Töpfer. C'était des BD il a inventé en fait cette façon de raconter, c'est-à-dire des images collées les unes aux autres, et des cases et une histoire qui se raconte progressivement, ce qu'on appelle l'art séquentiel. Et puis après, petit à petit, avant il y avait des récitatifs souvent sous les cases, et puis ensuite aux États-Unis, quelqu'un a eu l'idée de mettre des textes dans des bulles pour dire que les personnages étaient en train de parler, et voilà. Et puis petit à petit, on est arrivé à Zig et Puce, à Tintin qui a gigantesquement démocratisé la bande dessinée, à un âge d'or de la BD après-guerre avec des magazines comme Tintin, comme Spirou, comme Pilote, qui ont amené la bande dessinée dans tous les foyers. Enfin voilà, elle a avancé comme ça, la BD. Mais ouais, on peut dire qu'elle est née au milieu du 19e siècle à peu près.
Est-ce qu'on traite de tout dans la BD ?
Oui, on traite de tout. C'est ce qui fait l'intérêt de la BD aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement divers, hein. On a toujours de la BD grosnée franco-belge, comme on a de la BD de reportage hyper pointu, comme on a de la BD arty, comme on a du roman graphique sur des centaines de pages. C'est vraiment c'est ce qui rend cet univers aujourd'hui, je trouve, très passionnant. Il n'y a qu'à aller à un festival comme à Angoulême, ou même il y a beaucoup de festivals un peu partout en France, pour s'apercevoir de l'incroyable diversité qu'est son œuvre. Bien sûr, on peut tout dire, ouais.
Et les BD créées par des femmes, c'est pas si vieux que ça, finalement.
Alors, si. Historiquement, là, je regardais, la toute première, c'est Bécassine, c'est scénarisé par une femme. Historiquement, je crois que c'est la première. Non, effectivement, les femmes ont été souvent laissées de côté. Ça, c'est resté pendant très longtemps un univers très majoritairement masculin. Il y avait quelques pionnières dans les années 70, comme Claire Boitéché, par exemple. Mais là, les choses changent enfin, on a envie de dire, parce qu'on a vraiment besoin que la BD soit beaucoup plus féminine. Et elle l'est. Il y a maintenant à peu près un tiers des auteurs, eux, sont des autrices. Certaines avec beaucoup de succès. On pense à Pénélope Bagieu, par exemple. Voilà. Mais cela dit, il n'y a pas... Alors, il y a une bande dessinée féminine, mais est-ce que finalement le combat sera vraiment gagné quand on lit une BD sans te poser la question du sexe de la personne qui l'a faite?
Oui, aujourd'hui c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a aussi des BD, on en trouve sur ce sujet?
Alors là, vous me posez un peu une colle. Oui, il y en a. Il y a vraiment un vrai courant de la BD féministe qu'on trouve dans les librairies. Donc beaucoup de thèmes qui concernent les femmes sont abordés, souvent sous forme de témoignages d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu maintenant sous forme de bande dessinée. Alors j'ai pas complètement de titre en tête là au moment où on s'en parle. Mais au-delà même des violences qui sont faites, sur les violences sexistes, notamment les agressions sexuelles, oui, il y a des bandes dessinées qui traitent de ça. Et la BD à la première personne, et on commence à en voir beaucoup, oui.
En France, comment se porte la BD par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'il y a des sondages faits?
Il y a trois grands pays, trois grands continents de la BD dans le monde. Il y a le Japon, évidemment, avec le manga. Il y a les États-Unis où il y a les comics. Et puis, il y a l'Europe. Et l'Europe, il y a deux pays qui sont principalement dominants sur la BD. C'est la France et la Belgique, bien sûr. Et ça se porte bien parce que je crois qu'en vente, on est à... Les chiffres sont assez dingues. C'est 5000 publications par an. Ça veut dire qu'il y a quasiment 10 bouquins qui sortent tous les jours en France. Le chiffre d'affaires est de près d'un milliard d'euros. Ouais, voilà. En chiffre d'affaires, c'est ça. C'est quasiment un milliard d'euros. Et je vous disais tout à l'heure, c'est juste devant la littérature. On a une BD qui, l'année dernière, le livre le plus vendu en France, par exemple, c'était une bande dessinée. C'est Un monde sans fin, le livre de Christophe Blain et de Jean-Marc Jancovici, qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Ce qui est étonnant, c'est que le premier livre vendu en France l'année dernière est une bande dessinée, mais pas une bande dessinée qui raconte une histoire. C'est une bande dessinée de reportage sur l'écologie. C'est assez nouveau. Et cette année, le livre le plus vendu sera aussi une bande dessinée, puisque comme nous sommes une année impair, c'est une année où sortent les Astérix. Et Astérix, c'est toujours des ventes gigantesques, même plus de 50 ans après sa création.
Vous dessinez, vous aussi?
Oui, mais alors pas pour que ce soit trop montrable. Non, je dessine, oui, mais je publie pas, je n'ai pas le niveau. On ne se rend pas compte, mais le niveau de technicité du dessin en bande dessinée, enfin, c'est des professionnels, ce sont des gens qui ont fait souvent des études, il y a des écoles maintenant pour ça, et puis surtout qui pratiquent énormément. Donc voilà, on ne s'improvise pas dessinateur de BD, mais il y a eu aussi un mouvement au début des années 2000, avec un éditeur qui s'appelle L'Association et un auteur qui s'appelle Lewis Trondheim qui a dit en fait c'est pas important le dessin, le beau dessin n'est pas forcément important, ce qui est important c'est ce qu'on a à raconter et comment on va le raconter. Donc lui il a fait 500 pages d'une BD qui s'appelle Lapino et les cartes de Patagonie où il s'est absolument pas dessiné, il fait juste des petits lapins comme ça, mais il a 500 pages où il raconte des trucs. Donc là, ouais, voilà, l'important, mais c'est comme dans tous les arts, hein, l'important c'est ce qu'on a à dire.